Chapitre 3. Marie. Marie contemplait l'immense manoir qui se dressait devant elle. La neige crissa sous ses souliers lorsqu'elle bascula d'un pied sur l'autre pour sortir de sa besace usée sa poupée. Poupée qu'elle pressa contre sa poitrine. Deux agents de police s'entretenaient avec le maître des lieux. Un homme très grand, à la peau foncée, arborant un bandeau à un œil. Cet homme, Marie l'avait déjà vu, dans la boutique d'horlogerie de ses parents. Mais uniquement depuis sa cachette sous le comptoir, où elle jouait avec sa poupée tandis que ses parents travaillaient. Son nom, elle l'avait entendu prononcer par ses parents un grand nombre de fois. Drosselmeyer. Mais tout cela s'était produit avant l'incendie. Désormais, la boutique, la maison familiale et les parents n'étaient plus. Marie vivait dans la plus grande peur depuis une semaine. Elle avait beaucoup pleuré. Elle n'avait à présent plus une larme en elle. Scotland Yard n'avait pu lui trouver d'autres proches. Marie n'avait d'autre famille que ses parents. Bizarrement, chaque fois qu'un policier suggérait de la conduire à l'orphelinat, le nom de Drosselmeyer s'immisçait dans la conversation. Et la voilà qui se retrouvait à la porte de ce monsieur, accompagnée par deux agents, à quelques jours de Noël. C'était à n'y rien comprendre. « C'est une vraie tragédie », déclara l'homme aux deux agents. « Mais je ne vous suis pas, ses parents me l'auraient confié ?»« Pas exactement », rectifia un des policiers, un petit gros. « Votre nom apparaît à toutes les pages de leur livre de compte. Drosselmeyer par-ci, Drosselmeyer par-là. Ces livres sont les seuls rescapés de l'incendie, en plus de la petite. » « C'est un des rares indices dont nous disposions », enchaîna son collègue, un grand maigre affublé d'une moustache noire. À ces mots, son regard se posa sur Marie, qui enfouit la figure dans les cheveux de sa poupée. « Répète-lui ce que tu nous as dit », réclama le grand policier. Marie le fixait des yeux, interdite. Son souffle formait des petits nuages de vapeur au-dessus de la tête de la poupée. « Tu n'as rien à craindre », insista l'agent. « Dis-lui ce que tes parents t'ont expliqué. » Au sujet des livres de comptes. Pour eux, énonça la fillette après avoir avalé sa salive, ces livres étaient très importants. Quand l'incendie s'est déclaré, on est sorti en courant. Papa me les a confiés. Je devais les conserver précieusement pour Monsieur Drosselmeyer. Mes parents sont ensuite rentrés dans la boutique pour tenter d'éteindre l'incendie. Ce que Marie n'ajouta pas, c'est que le toit du bâtiment s'était effondré avant l'arrivée des pompiers. Et que ses parents n'avaient pu sortir vivants du brasier. Elle n'a pas d'autre famille proche, expliqua encore le grand policier. Ses parents étaient, semble-t-il, des gens très discrets. Toutes leurs possessions ou presque ont été détruites dans l'incendie. Mais elle prétend que vous les connaissiez. Alors, eu égard à votre statut, nous avons souhaité nous en assurer. Savoir si j'accepterais de la prendre sous mon aile? Clarifia Drosselmeyer. Tout sauta le policier. Tout à fait. Nous vous aurions bien contacté plus tôt, mais votre valet nous a indiqué que vous deviez rentrer d'une expédition ces jours-ci. Quelle tragédie, murmura encore Drosselmeyer de sa voix râpeuse. Je suis en effet client de cette maison depuis des années. Il feuilletait les pages d'un des livres de comptes. Monsieur Stalbaum aimait à dire que sans des gens comme moi, qui savent apprécier la beauté des vieux mécanismes, ils auraient depuis longtemps mis la clé sous la porte. J'en déduis que vous étiez proche, crut comprendre le policier. D'un certain point de vue, oui, concéda Drosselmeyer. Les parents de cet enfant étaient plus instruits que la plupart des gens. Et leur boutique était la seule dans tout Londres à proposer les outils dont j'ai besoin pour mes inventions. Vos inventions ? Ricana le petit gros. Et vous bricolez quoi au juste dans votre château ? Un monstre à la sauce Frankenstein ? Drosselmeyer lui adressa un regard froid avant de reprendre. J'étais très attachée aux parents de Marie. Son père et moi avons collaboré sur plusieurs projets. De là à accueillir une enfant, je ne l'avais jamais envisagée. Elle est vraiment seule au monde ? Marie avait écouté cette conversation avec intérêt. Lorsque Drosselmeyer posa son regard sur elle, de son seul œil valide, elle enfouit son visage dans sa besace, serra sa poupée très fort contre son cœur. Que va-t-il lui arriver ? Demanda le maître des lieux. Si on ne lui trouve aucun proche. Nous avons cherché partout, renifla le petit gros. C'est une certitude, elle est sans famille. Il ne lui reste plus que l'orphelinat. Vous pourriez être plus discret, le rabroua Drosselmeyer. Cette petite n'est pas sourde. Pour ce que ça change, souffla le grand maigre. Reginald a dit la vérité. Vous étiez notre dernière piste. Scotland Yard ne peut pas héberger cet enfant plus longtemps. Nous allons la déposer à l'orphelinat de ce pas. » Se tournant vers Marie, il poussa un soupir. « C'est vraiment dommage, j'ajouterai. Surtout à l'approche de Noël. Une bien triste affaire. Allez, ma petite, nous partons. » La mine basse, Marie ne savait trop à quoi allait ressembler l'orphelinat. Mais à en juger par les visages des trois hommes, elle craignait le pire. La neige crissait sous ses pas quand ses souliers ne dérapaient pas sur des portions glacées. Au moment où elle passa devant Drosselmeyer, elle glissa et se retrouva sur les fesses. Le froid la mordit à travers ses vêtements. « Sois prudente, mon enfant, » lui dit Drosselmeyer en l'aidant à se relever. « Les os ne se réparent pas aussi facilement que des engrenages. » Au même instant, l'homme aperçut l'éclat d'une montre de gousset suspendue à la besace. Un dé était ciselé sur le couvercle. Drosselmeyer saisit l'objet, l'ouvrit délicatement. Le mécanisme était arrêté. « Je me rappelle avoir donné cette montre à ton père, » déclara-t-il, « pour le remercier de m'avoir aidé à réparer une horloge particulièrement récalcitrante. » Il riva son regard à celui de Marie. Celle-ci le soutint, spontanément. Elle y trouvait une forme de réconfort mystérieux. Après tout, ce monsieur était la dernière personne au monde à avoir bien connu ses parents. Pensait-il à la même chose qu'elle ? Le vieil homme remonta le mécanisme de la montre, puis la rendit à Marie. Après quoi, il prit la toute petite main de l'enfant dans la sienne, grande et ferme. « Allons !» insista Reginald. « C'est l'heure !»« Ce ne sera pas nécessaire !» affirma Drosselmeyer sans lâcher la main de Marie. « Mais nous venons de vous le dire !» pressa le policier. « Scotland Yard ne peut plus héberger cette petite !»« Soit !» conclut le grand borgne en souriant à Marie. « Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir l'héberger à présent. » Quelques jours plus tard, le matin de Noël, Marie était assise à la table du petit déjeuner. Elle portait une robe de fête toute simple, quoique fort jolie. Elle mangeait avec appétit un bol de porridge. Il était crémeux et bien chaud, comme sa mère le lui préparait naguère. « Ralentis un peu ou tu auras mal au ventre !» la rabroua la cuisinière. « Tes parents ne te donnaient pas à manger ou bien ?»«
Si, » répondit Marie. « Mais ils sont morts. »
À ces mots, l'expression de la cuisinière changea du tout au tout. « Je te demande pardon, mon enfant, » dit-elle. « Je n'aurais pas dû aborder le sujet, surtout le jour de Noël. » Comme pour appuyer ses propos, elle disposa une panière remplie de biscuits au pain d'épices tout chaud sur la table devant Marie. Les traits de celle-ci s'éclairèrent. « Je comptais les réserver pour plus tard, » ajouta la cuisinière. « Mais tu as bien le droit d'en goûter un ou deux, non ? Tâche d'en laisser quelques-uns. « Si tu ne veux pas que tout ce sucre te transforme en dragée. »«
Fais dragée, » répète Marie. « C'est comme ça que s'appelle ma poupée. »
Elle la tenait d'une main sur ses cuisses depuis le début du petit déjeuner. Elle ne l'avait d'ailleurs pas lâchée depuis son arrivée à la propriété. Ce charmant jouet lui avait été offert un Noël par ses parents. Elle leur avait sans doute imposé des sacrifices. Marie y tenait comme à la prunelle de ses yeux. « Voilà un bien joli nom, » sourit la cuisinière. « Quand tu auras fini de manger, va donc retrouver M. Drosselmeyer à la bibliothèque. Il t'y attend. » Deux bols de porridge et plusieurs biscuits plus tard, Marie emboîtait le pas du majordome qui la conduisait à la grande bibliothèque du manoir. Malgré cette présence à son côté, la fillette se sentait toute petite et bien solitaire dans cette immense demeure. Elle n'en avait jamais vu d'aussi imposante, ni imaginé qu'il puisse en exister en dehors des livres d'histoire. Le grand escalier était garni d'un tapis épais aux riches motifs. De lourds chandeliers illuminaient les lieux, disposant chacun d'une centaine de becs de gaz au moins. Le papier peint lui-même, exotique, faisait impression. Jusque-là, Marie avait passé presque tout son temps dans sa chambre, à lire et relire les quelques contes de fées que les domestiques avaient pu lui dénicher dans la bibliothèque. Le personnel l'avait traitée avec beaucoup d'amabilité, l'avait aidée à trouver des vêtements à sa taille et lui avait préparé un petit lit douillet. Marie était reconnaissante à M. Drosselmeyer de lui avoir évité l'orphelinat. Pourtant, rien de ce qu'elle vivait ne lui semblait réel. Sa chambre, le manoir, les serviteurs, et jusqu'au propriétaire. C'était comme une illusion dont la fillette redoutait qu'elle se dissipe à tout moment. Même au fond de son lit, réchauffée par des bouillottes pour ne pas avoir à allumer la cheminée, elle se sentait perdue. Les seules choses qui lui semblaient réelles, c'était sa poupée et les contes qu'elle lisait et relisait,
comme sa mère le faisait pour elle autrefois. Cela au moins, ça lui était familier, contrairement à tout le reste de sa nouvelle vie. Quelle place pouvait-elle y avoir, pauvre fille d'un simple horloger, désormais seule au monde? Elle n'avait pour ainsi dire plus revu Drosselmeyer depuis que celui-ci avait annoncé au policier qu'il la gardait. Les domestiques lui avaient expliqué qu'il voyageait souvent, dans le monde entier, et que lorsqu'il était au manoir, comme en ce moment, il passait le plus clair de son temps dans son atelier. Marie se rappelait que ses parents l'appelaient « l'inventeur ». Qu'inventait-il au juste? Et c'est ainsi, comme en réponse magique à cette question, qu'une invention était apparue à la porte de sa chambre ce matin même, le matin de Noël. Elle avait failli ne pas entendre les trois coups discrets tapotés au battant. Ça avait été comme un murmure. Curieuse, Marie avait entrebâillé la porte et hasardé un coup d'œil dans le couloir. Celui-ci était désert, mais par terre, elle avisa un œuf en métal brillant. Son enveloppe était ciselée de volutes et de motifs et fermée par une serrure en forme d'étoile à six branches. Une création originale, apparemment. Une petite carte était accrochée à l'œuf par un ruban rouge. Pour Marie. Joyeux Noël. La fillette ne savait quoi en penser. Les pas lourds de la cuisinière s'étaient alors fait entendre. La femme était venue voir si Marie se sentait le cœur de descendre prendre le petit déjeuner dans la salle à manger, comme tous les matins. Sauf que ce matin-là, pour la première fois, la curiosité fut plus forte que la peur. Marie s'aventura hors de sa chambre. La jeune fille franchit les portes de la bibliothèque, l'œuf lové au creux de ses mains, sa poupée sous son bras. Drosselmeyer était assis dans un fauteuil profond. Un gros volatile, une chouette, perché sur son dossier. Le majordome fit la révérence, puis s'éclipsa. « Ah, la jeune Marie !» s'exclama Drosselmeyer en refermant le livre qu'il lisait. « Permets-moi d'être le premier à te souhaiter un joyeux Noël. »« Joyeux Noël à vous, monsieur !» lui répondit timidement l'enfant. « La cuisinière m'a déjà adressé ses vœux. »«
Je serai donc le deuxième ?»«
Le majordome aussi ?»«
Dans ce cas, pouffa l'homme, ton Noël a toutes les chances d'être joyeux. »
Mais je vois que tu as trouvé ton cadeau.
En effet, confirma Marie en montrant l'œuf.
Je vous remercie, monsieur, mais de quoi s'agit-il?
Chaque chose en son temps. Approche un peu que je puisse te voir.
Bonté divine. Un peu plus et je ne te reconnaissais pas.
Madame Rosemund t'a trouvé la robe idéale, on dirait.
Es-tu bien la fille de l'horloger, celle que j'entrevoyais souvent cachée sous le comptoir?
C'est bien moi, monsieur.
Mes serviteurs t'ont traité correctement, n'est-ce pas? S'enquit Drosselmeyer.
Oh oui, monsieur!
Se hâta de répondre la fillette en serrant sa poupée la fait drager contre sa poitrine.
Merci, monsieur.
Allons, allons! Gloussa le maître de maison. Ai-je l'air si âgé que tu me donnes sans cesse du monsieur?
Marie dansa d'un pied sur l'autre sans répliquer. Drosselmeyer partit à nouveau de rire.
Ce n'est rien, tu n'as pas à répondre.
Mais puisque tu vis ici désormais, tâchons de nous entendre sur un terme plus familier. Tu veux bien?
Oui, monsieur... commença Marie. Enfin, je pourrais vous appeler monsieur Drosselmeyer?
Celui-ci secoua la tête.
Non, non, cela ne va pas.
Voyons voir. J'ai été l'associé de ton père. J'imagine qu'on peut dire que nous étions frères dans le métier. Le titre d'oncle me semble plus approprié. Pas à toi?
Marie sourit à l'idée que Drosselmeyer soit lié à son père, comme un membre de la famille.
« Ça me plaît bien, » approuva-t-elle. « Oncle Drosselmeyer. »«
Fantastique !» applaudit l'oncle.
« Et maintenant, dis-moi, jeune Marie, comment se passe ton adaptation ?»«
Très bien, mon oncle, votre maison est immense. »«
Tiens donc !» s'étonna Drosselmeyer en parcourant du regard la bibliothèque. Je passe tant d'heures retranchées ici qu'il y a longtemps que je n'ai plus parcouru ces couloirs.
Moi aussi, je reste plutôt dans ma chambre, ajouta Marie. Je ne voudrais pas me perdre.
Drosselmeyer inclina la tête, un voile de tristesse sur son visage.
Tu ne te perdras jamais, mon enfant, lui assura-t-il.
Madame Rosemund m'a rapporté qu'hier elle n'avait pas réussi à t'arracher à tes livres d'histoire. Je suis par ailleurs navrée de ne pas m'être montrée plus disponible depuis ton arrivée. Mon travail m'accapare et je n'ai pas l'habitude de m'occuper d'enfants. Je n'en ai jamais eu, vois-tu. Mes voyages ne m'ont pas laissé le temps de fonder une famille.
Pour toi aussi, j'imagine que cela fait de gros changements.
Oui, confirma Marie. C'est vrai.
Le regard rempli de compassion, Drosselmeyer enchaîna.
Tu dois être bien triste.
Marie était au bord des larmes. Depuis la mort de ses parents, personne ne s'était vraiment intéressé à ses sentiments. On avait souvent chuchoté autour d'elle des phrases qui se concluaient toutes par les mots « pauvre enfant ». Tout le monde parlait d'elle, mais personne ne s'adressait à elle. Jusqu'à maintenant.
« Il me manque énormément », confia-t-elle tout bas.
Drosselmeyer la laissa enfouir sa tête contre son épaule, mouiller son veston de ses larmes. « Je sais que c'est dur », affirma-t-il en lui tapotant la tête. « Mais tu vas t'en remettre. Je te le promets. »«
Vous êtes sincère ?» renifla Marie.
« Absolument. Je voudrais te montrer quelque chose. Suis-moi. » L'homme prit la fillette par la main et la conduisit à son atelier. Sitôt la double porte franchie, Marie retint son souffle. La pièce était gigantesque, remplie du sol au plafond d'éléments de mécanisme et autres gadgets.
« Regarde-moi ça, Fédragé !»
murmura Marie à sa poupée.
« On se croirait à l'intérieur d'une machine ?»
Drosselmeyer l'entraîna dans un coin de l'espace où trônait une grande horloge dorée. Marie contempla cette splendeur. Bien que fille d'horloger, elle n'avait jamais rien vu de tel. Le cadran évoquait presque un globe. Les chiffres des heures étaient imprimés en grand sur une plaque de verre craquelé. Le compartiment du bas, lui, était creux, doté de lucarnes filetées d'or par lesquelles on pouvait voir le mécanisme. Un engrenage de roues produisant un martèlement lourd pour marquer le temps. Mais à la place du balancier, il y avait une figurine de femme vêtue d'une ample jupe en or. Une fente à la base de la jupe révélait d'autres figurines, plus petites. Celles-ci évoluaient sur une petite piste. Chacun de leurs pas matérialisait une seconde. Marie leur trouvait des airs de grosses poupées. « Sais-tu de quoi il s'agit ?» l'interrogea ensuite Drosselmeyer.
« C'est une horloge ?» répondit la fille.
« Certes, mais pas n'importe laquelle. La plus complexe, la plus invraisemblable qu'il m'ait été donné de voir. » Ton père m'a aidé à la réparer.
Mon père ?
Tout à fait. Personne d'autre à Londres n'arrivait à la régler, mais lui avait des doigts de fée. J'ignore qui l'a construite, elle était déjà au manoir quand je m'y suis installée. Mais j'avais beau m'échiner dessus, je n'arrivais à rien. Ton père ne s'est pas découragé, il y a consacré des heures, et il a triomphé. Drosselmeyer s'agenouilla devant Marie, les mains sur ses épaules.
Je revois ton père quand je te regarde. Affirma-t-il. Ton père et ta mère. Seule une enfant aussi courageuse qu'eux aurait pu tenir le coup comme tu l'as fait. Tu veux bien te montrer forte pour eux et pour moi.
Marie renifla puis hocha la tête. C'est bien, approuva Drosselmeyer en lui essuyant ses larmes. Et maintenant ne pleure plus. C'est Noël. Or, qui dit Noël dit joyeux Noël.
Joyeux Noël et des cadeaux.
L'homme saisit une clé sur son établi. Il la tendit à Marie en désignant d'un geste l'œuf. « Mes inventions sont les seules choses que j'ai à offrir, » déclara-t-il. « Mais j'espère que celle-ci te plaira. Joyeux Noël. » Marie inséra la clé dans la serrure, tourna, puis ouvrit délicatement l'œuf. Oh ! À l'intérieur se trouvait un tout petit mécanisme, composé de rouages minuscules, agencé autour d'un cylindre hérissé de pointes. L'engrenage s'enclencha et le cylindre se mit en mouvement. L'une après l'autre, de fines tiges de métal butaient contre les pointes et produisaient une mélodie.
« Une boîte à musique ?»
s'extasia Marie.
« Et c'est vous qui l'avez fabriquée ? Pour moi ?»«
En effet, convainc Drosselmeyer. Ton père m'a expliqué un jour que chaque rouage, chaque piston, révèle une part de la personne qui l'a créée. J'aimerais que tu conserves cette boîte, Marie, en souvenir de tes parents. Ils t'aimaient beaucoup. Chaque fois que tu l'écouteras, rappelle-toi que leur amour est en toi. » Sans réfléchir, Marie se jeta au cou de son bienfaiteur et se serra contre lui.
« Merci, »
ajouta-t-elle. « Ce n'est pas grand-chose, » nuança Drosselmeyer en lui tapotant la tête. « Mais tout le plaisir est pour moi. » Marie observait la boîte à musique sous toutes les coutures, admirative. De la fort belle ouvrage, La perfection. Plus complexe encore que les montres et les horloges sur lesquelles elle avait vu ses parents travailler.
Vous pensez que je serais capable, moi aussi, de fabriquer une telle merveille ? Demanda-t-elle. Vous accepteriez de m'enseigner votre art ?
Ça oui, s'enthousiasma Drosselmeyer. As-tu vraiment envie d'apprendre ?
Vraiment oui.
Dans ce cas, c'est d'accord. Le visage rayonnant, Marie promena son regard sur tous les rouages qui cliquetaient dans l'atelier. Elle trouvait ça presque magique. Et cette magie, elle comptait bien la faire sienne.